La réussite à 1000% va se baser sur votre état d'esprit. Ça m'a pris 5 ans pour m'en rendre compte. On voit tout le monde gagner des millions, on se dit oui, c'est cool, je peux aussi le faire. Mais on ne voit pas, on ne prend pas le temps d'analyser toute sa personnalité, ses traumas, son enfance. Toutes ces parties inconscientes ou subconscientes qui finalement dit qui on est. Focalisez-vous énormément, mettez 80% de votre énergie à vous connaître, à définir votre personnalité, à savoir ce que vous voulez vraiment faire. Et si vous comprenez ça, vous allez scaler tout ce que vous voulez.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Alain.
Salut à toi Alec.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Parfait.
C'est un énorme plaisir pour moi d'être dans le podcast aujourd'hui.
Eh bien écoute, avec grand plaisir. Aujourd'hui Alain, on va, je pense, créer plusieurs déclics. Tu as un parcours assez hors du commun. Ça me fait aussi très plaisir de t'avoir ici sur le podcast. Ça fait un certain temps que je te vois passer, qu'on se connaît un petit peu, etc. Que tu nous suivais aussi et on s'est rencontrés physiquement à Dubaï il y a de ça quelques semaines maintenant.
Ouais.
Et lorsque j'ai appris à te connaître davantage, je voulais absolument que tu sois présent sur le déclic pour pouvoir nous partager ton parcours. Je vais rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es expert en e-commerce, tu es arrivé en France en 2012. Ton parcours entrepreneurial commence véritablement en 2013 après avoir découvert notamment le potentiel du business en ligne. On reviendra sur tout ton parcours, mais après plusieurs tentatives et plusieurs échecs, tu parviens finalement à générer plus de 2 millions d'euros grâce au e-commerce. Aussi, tu as formé plus de 500 étudiants en e-commerce. Tu es également créateur de contenu sur différentes plateformes, notamment YouTube, ayant pour but d'inspirer à ton tour. Tu as lancé récemment ton livre, le guide du e-commerce, comment créer sa marque et monter son business en ligne qui rapporte des millions, partageant notamment ton expertise. Et aujourd'hui en particulier, tu fais pas mal d'import-export. On en parlera entre l'Afrique et la Chine, où tu gères des contrats entre les États, notamment dans les matières premières. C'est un vaste sujet, il y a énormément de choses et de perspectives te concernant qu'on évoquera. Et surtout, le tout en partant quasiment de zéro, voire même plus que de zéro. On reviendra sur ça, donc franchement, très inspirant. Avant ça, et avant de démarrer et de te poser une première question, j'ai envie de le faire comme je le fais à chaque fois, mettre en lumière un ou une de nos auditrices du podcast Le Déclic. Merci, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous qui nous écoutez au quotidien. Grâce à vos avis sur Apple Podcast et les 5 étoiles que vous mettez sur toutes les plateformes de podcast, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le refaire ou à le faire afin de donner encore plus de visibilité à toutes les personnes qu'on invite. Aujourd'hui, je mets en avant le commentaire de Julien qui nous dit « Merci, masterclass de A à Z. Je conseille ce podcast à toutes les personnes voulant se développer mentalement mais aussi sur le plan professionnel. Merci beaucoup Alec pour tout ce savoir partagé. » Encore une fois, du coup, avec toi aujourd'hui, Alain, on va partager énormément de savoir. Alain, j'ai envie de revenir sur tes débuts. Tu arrives en France en 2012, du Bénin, pour continuer tes études en informatique. À ce moment-là, quelle est ta vision ou quelle vision avais-tu de ton futur et quel a été le déclic qui a tout fait basculer?
Merci beaucoup, Alec. Faut savoir que, comme tu l'as dit, hein, je suis béninois. Je suis venu en France en 2012 pour continuer mes études en informatique. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout la France. Pour moi, la France était par rapport à ce que je voyais à la télé, notamment avec Canal+. Donc, il y avait une certaine idéalisation et tout. Et c'est la première fois aussi que je prends l'avion dans ma vie. Je débarque à Paris et il fait froid. J'aime pas le froid. Et c'était un peu une situation assez compliquée au début. Vraiment, c'était une situation assez compliquée parce qu'il faut s'adapter à un nouvel environnement. Il faut comprendre. J'habitais aussi très loin de mon établissement. J'étais à côté du 77, enfin pour ceux qui connaissent un peu la région Île-de-France, c'était vraiment vers Montargis, donc j'avais 2h30 pour aller à l'école, donc c'était un début assez difficile en France. Et vraiment, le premier déclic que j'ai eu, c'était en 2013. Il y a un entrepreneur français qui est même très actif aujourd'hui, qui a fait une vidéo à l'époque sur Snapchat. Donc, il parlait des escroqueries sur Snapchat. Snapchat venait d'être lancé en 2012 en France. Ça venait d'arriver en France. Donc, tout le monde avait téléchargé Snapchat. Et il avait fait une vidéo et à l'époque, la vidéo avait très bien marché. Hein. Pour du 2013, la vidéo en fin de vie avait fait environ 700 000 vues à l'époque. Donc, ce qui était quand même assez énorme pour 2012-2013. Et je découvre la vidéo, je regarde la vidéo. Bon, comme toutes les vidéos, il explique les choses, mais bon, pour moi, c'était sans plus. Et après, il fait une deuxième vidéo où il parle de growth hacking. Il dit, ouais, que cette vidéo YouTube, c'était du growth hacking et tout, parce qu'il avait voulu exploiter un sujet du moment, etc. Et tout. Et c'est là que je découvre vraiment le terme marketing en ligne via ces vidéos. Et tu connais YouTube avec les recommandations. Là, on me montre tout le monde. Je vois tous les gars passer, Olivier Roland, Cédric Anicet, en fait, tous les gros entrepreneurs de l'époque de 2012-2013. Et c'est là que je découvre un autre monde, parce que pour moi, ma vision, c'était de venir en France, de faire mes études en France et d'être salarié toute ma vie. Et lorsque je suis en retraite, je deviens consultant. Parce que dans ma vision des choses, c'était les vieux qui étaient entrepreneurs. Parce que dans mon environnement, ceux que je voyais qui étaient entrepreneurs, qui étaient chefs d'entreprise, souvent c'était des gens qui étaient vieux. Et en plus, pour quelqu'un qui est né, qui a grandi, je suis venu en France à l'âge de 20 ans. Je ne suis pas venu très jeune, donc je suis venu à l'âge de 20 ans en France, même 21 ans à peu près. Et du coup, pour moi, dans ma vision, c'était que tu devais être vieux avant de devenir entrepreneur. Et quand je vois tous ces jeunes, à l'époque en tout cas, qui étaient à Bali, parce que Dubaï n'avait plus encore cette connaissance, n'avait pas encore en tout cas cette popularité en 2013, c'était beaucoup plus les pays asiatiques qu'on présentait, etc. Je me suis dit, putain, il y a une autre vie qui existe. Et j'ai envie de vivre cette vie-là aussi. Et c'est comme ça que mon aventure démarre, parce que pour moi, c'était comment c'est possible? Comment, à l'époque, des gars parlaient de 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, et ils étaient en Thaïlande, ils étaient dans d'autres pays, ils faisaient le tour du monde. Et pour moi, en tant qu'Africain qui vient de débarquer en France, et qui découvre Internet, parce que j'ai mon premier ordinateur aussi à l'âge de 20 ans. C'est lorsque je viens en France que j'ai mon premier ordinateur, que j'ai tout, en fait. Et que je découvre Internet aussi, etc. Tout ça. Et je me dis, putain, j'ai envie de vivre cette vie-là. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier déclic. C'est comme ça, à partir de 2013, que je me lance dans le monde du business en ligne en commençant par le marketing de réseau à l'époque. Voilà.
Ensuite de ça, justement, tu vas commencer le marketing de réseau, tu vas essayer le
Ouais.
trading, l'affiliation, tu vas essayer plein de choses jusqu'à arriver au e-commerce, mais on en parlera de ça. Mais avant ça, j'ai quand même envie de rebondir sur quelque chose. Tu évoquais le fait que tu arrives à l'âge de 20 ans. Donc, en gros, de l'âge de ta naissance à tes 20 ans, tu es au Bénin, en Afrique.
Oui.
Au Bénin, au moment où on se parle, plus ou moins, contredis-moi si je me trompe, mais le salaire moyen, ou en tout cas le SMIC, est de l'ordre de 50 ou 60 000 francs CFA,
Exactement.
voilà, ce qui équivaut à 80,
Du 100
90
euros,
euros,
4... ouais, voilà.
voilà, ce qui est très faible et ce qui, j'imagine, eh bien, offre, à ma connaissance, ou en tout cas selon ma perception par rapport à quelqu'un qui voudrait venir vivre en Europe, peu de perspectives d'avenir. Ce qui est hyper intéressant finalement, c'est que tu représentes par ton histoire aussi, j'imagine, le rêve de beaucoup de Béninois ou de personnes qui peut-être sont issues de pays qui sont en voie de développement, on peut utiliser ces termes, et qui n'ont pas forcément les mêmes chances que la plupart des gens qui sont nés en Suisse, en France, en Belgique ou autre. Et ce message finalement d'espoir par ta volonté, ta force de caractère et ta capacité à te remettre en question instantanément pour pouvoir essayer, itérer différemment jusqu'à réussir et avoir des résultats tels que tu as eu aujourd'hui qui sont juste déjà hors normes à ce niveau-là. Dans quel état d'esprit tu étais lorsque justement tu fais tes 20 premières années de ta vie au Bénin et que tu rêves d'aller en France? Parce que rien que cette partie-là, finalement, je sais que, alors ça représente une minorité, on parle de quelques pourcentages de l'audience du déclic, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être nous écoutent d'Afrique, qui peut-être nous écoutent de certains pays aussi au Maghreb, et qui justement ont envie, ou même à Madagascar, on en a aussi, qui ont envie justement de s'offrir une autre possibilité grâce au business en ligne, grâce au fait d'Internet où les barrières et les frontières sont totalement coupées. Et ça peut être intéressant que tu leur partages à eux en particulier l'état d'esprit dans lequel tu étais lorsque bah, tu es là-bas au Bénin pendant les 20 premières années de ta vie et peut-être que tu rêves d'un avenir meilleur, tu rêves de l'Europe ou tu rêves de pouvoir développer ton business ou en tout cas d'avoir d'autres perspectives parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas encore le déclic du business en ligne.
Effectivement. Il faut dire que à l'époque, pour moi, venir en France, c'était vraiment pour avoir de fait de grandes études en fait, de
D'accord.
fait de grandes études et avoir un meilleur avenir. C'était pour moi dans cette optique parce que je le dis souvent, j'étais un premier de classe. C'est ça que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, j'étais un très bon élève. Et quand j'étais au Bénin, et le problème avec ça, c'était que souvent dans les pays en voie de développement, quand tu n'as pas le bon réseau, quand tu n'es pas de la bonne famille, etc., tu peux être intelligent comme tu veux. C'est parfois très compliqué d'avoir les meilleurs boulots, d'avoir les meilleurs jobs, d'être dans les meilleures positions en fait. Et pour moi, c'était le fait de dire que si je viens en France et que je travaille aussi dur comme je travaille ici, c'est un peu plus égalité. En tout cas, j'aurais déjà une meilleure vie parce que je voyais des amis qui partaient en France, qui faisaient leurs études en France, au Canada, etc., et qui s'en sortaient un peu plus. En tout cas, c'était déjà mieux. Et je voyais un peu tout ce beau monde et j'avais envie de dire que si je reste ici, pour moi, en tout cas, ça va être très compliqué. Donc, heureusement, mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse venir en France. Et je viens aussi en France avec très peu de moyens parce que je suis venu en France, t'es là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler parce que j'avais l'université, mais j'ai fait tous les petits boulots aussi à côté parce que mes parents ne peuvent pas me payer une grande école parce que j'étais dans une grande école. Parce que mes parents ont voulu, en tout cas ma mère à l'époque, elle a tout fait parce que, bon, comme beaucoup de mères africaines, elle n'a pas fait de grandes études, mais elle disait que vous, mes enfants, vous avez fait de grandes études. Tu vois, donc c'est ce qui l'a poussé aussi à me mettre dans une école privée d'informatique quand je viens en France, mais il fallait aussi payer l'école parce qu'elle coûtait 10 000 euros l'année. Donc du coup, j'étais obligé aussi de travailler à côté. La chance aujourd'hui qu'ont les pays africains, c'est que aujourd'hui, même en Afrique, on peut rester aujourd'hui en Afrique et développer toute une activité en ligne. Aujourd'hui, moi, j'ai délocalisé tous mes business, entre guillemets, sont aujourd'hui en Afrique. Toute mon équipe est au Bénin aujourd'hui. On a une très bonne connexion Internet aujourd'hui. Tout marche très bien. J'ai beaucoup d'amis aussi au Bénin et qui, grâce à mes vidéos, se sont lancés aussi dans le monde du business en ligne. Donc, on n'a plus forcément besoin de faire ce voyage qui est aussi coûteux quelque part, coûteux en énergie, coûteux en beaucoup de choses. On n'a plus aujourd'hui besoin parce que le monde s'est énormément digitalisé. Les pays africains aussi sont de plus en plus connectés aujourd'hui. Et même moi, je passe clairement la moitié de mon temps au Bénin. J'étais même au Bénin il y a encore 3 semaines. Parce que j'ai, comme je le disais, j'ai l'équipe là-bas. Toute mon activité que tu vois sur mes monteurs vidéo, mon service après-vente, toute mon équipe, mes coachs, etc., ils sont tous au Bénin, au Togo, au Sénégal, aussi dans ces 3 pays, et on arrive à gérer tout le business grâce à ce qu'on a comme connexion Internet qui devient de plus en plus rapide, avec aussi Starlink maintenant qui se développe dans les pays africains. On a Starlink aussi au Bénin, le satellite d'Elon Musk, qui fait qu'aujourd'hui on a une connexion ultra rapide qui nous coûte environ 50 euros, mais ça va. Donc, moi, avant de venir en France, je ne connaissais pas du tout le business en ligne. Je ne savais même pas que ce truc existait en fait. Je me suis dit, mais c'est pour ça que quand je découvre ce monde-là, pour moi, c'est vraiment, et ça je le dis tout le temps, c'est le cheat code de la matrice. Vraiment. C'est la faille de la matrice, le business en ligne. Parce que ça permet à des gens comme moi, qui viennent d'Afrique, ça permet à des gens, peut-être qui ne sont pas extravertis dans la vraie vie, des gens qui sont peut-être timides. Ça permet à tous ces gens-là qui n'ont pas peut-être des compétences sociales ou ne sont pas de bonne famille ou ne sont pas avec tout ce qu'on peut avoir comme défaut, je dirais entre guillemets, grâce au business en ligne, on peut réussir aujourd'hui. Clairement, ça a été mon cas et ça a été le cas de plein de personnes. Et surtout, comme tu l'as dit, pour la petite communauté africaine qui nous suit sur ce podcast-là, pour moi, je suis persuadé que c'est ça qui va révolutionner les choses. En Afrique, on le voit aujourd'hui, on a vu, comme tu l'as dit aussi, Madagascar, où énormément de jeunes se lancent dans le business en ligne en tant que prestataire de services SAV. On l'a vu avec l'Amérique latine, qui beaucoup de jeunes se lancent dans ce type-là. On le voit aussi dans les pays comme les Philippines, etc., où beaucoup de jeunes, les universités donnent même des programmes pour aller dans ce sens, dans le business en ligne. Au Bénin aussi, il y a beaucoup de personnes que je connais au Bénin qui se lancent dans cette activité, dans tout ce qui est business en ligne. Donc pour moi, le business en ligne, c'est vraiment la faille dans la matrice. C'est ce qui va permettre à quelqu'un, à un enfant de pauvre qui n'a rien, il faut juste une connexion Internet et un ordinateur et il peut faire des millions en ligne. Et clairement, ce n'est pas vendeur, mais c'est une réalité. En tout cas, ça a été mon cas et ça est le cas de plein de personnes que je connais qui sont encore au Bénin aujourd'hui et qui littéralement gagnent des dizaines de milliers d'euros dans un pays où on a un SMIC qui est à moins de 100 euros.
Tu utilises des mots forts, comme par exemple un enfant de pauvre, ce qui était mon cas, pour reciter tes propos. Il y a deux types de personnes face à ce type de situation, et merci de l'évoquer aussi crûment possible parce que tu l'as vécu, donc tu te permets. C'est ceux qui vont se résigner, qui vont peut-être se morfondre sur leur sort et qui vont se dire « ma vie est ainsi faite » ou peut-être qu'ils vont aller vers la voie de choses qui ne sont pas forcément des plus recommandables. Et il y a ceux qui, comme toi, vont avoir cette force de caractère et qui, même sans forcément peut-être avoir de la visibilité sur l'opportunité qui va faire la différence, finalement, dans ton champ des possibles, dans ta réalité, ce qui allait faire la différence, c'est le fait d'être bon à l'école, de pouvoir faire de grandes études, pouvoir aller en Europe pour les faire, et puis ensuite avoir une vie meilleure. Qu'est-ce qui fait dans ton état d'esprit, justement, que étape par étape, malgré toutes les difficultés que tu as vécues dans ta jeunesse, tu t'es donné les moyens de devenir la personne que tu es pour pouvoir aller en Europe, faire ses études et ensuite découvrir ses opportunités.
En fait, pour moi, c'est beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, enfant de pauvre, ma mère a tout vendu pour que je vienne en Europe. Elle a vendu sa maison, elle a vendu sa voiture, elle a sacrifié énormément de choses. Venir en Europe, ce n'est pas un parti de plaisir. C'est énormément de sacrifices pour une famille parfois. Parce qu'elle misait vraiment sur le fait qu'on puisse briser ce cycle-là. À un moment donné, il faut qu'on puisse briser le cycle, entre guillemets, de la pauvreté. Et elle a misé énormément. Et pour moi, quand je viens ici, je suis dans cette mentalité. Je me rappelle très bien quand j'étais dans l'avion. Parce que j'avais peur. C'est la première fois que je prends l'avion. Et on est dans ce truc pendant 6 heures. On ne sait pas si ça va tomber, etc. Et pour moi, toute ma prière, quand j'étais dans l'avion, c'est... J'espère que je vais tout déchirer quand je serai ici. J'espère que je vais tout. Je ne le faisais plus me répéter ça. J'espère que je vais tout déchirer quand je vais venir ici. Donc toute ma concentration quand je vis en France, c'est de tout déchirer. Mais je ne sais pas comment. Mais je me dis au moins, t'es fort à l'école, au moins tu seras un bon salarié. À la limite, j'aurai ça.
Ouais.
Et moi, je pense personnellement aujourd'hui que le monde de l'internet, et je le dis encore. C'est la faille dans la matrice, parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, et tu conviendras, Alec, que quand on regarde l'histoire de l'humanité, soit tu naissais dans les familles nobles de riches, etc., soit c'était la merde. Ou bien tu es né avec un talent comme les Mozart et tu joues du piano magiquement, j'ai envie de dire, ou soit tu es assez manipulateur, un peu comme Machiavel, hein, quand on lit son bouquin, un peu manipulateur pour rentrer dans les bons cercles, etc. Mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est comme si la vie de chaque être humain était déjà dessinée. Soit t'es un gosse de riche, soit t'es né avec une certaine compétence, un certain génie, soit t'es le fils de l'agriculteur du village et t'étais dans la merde. Et on arrive dans les années au 21e siècle, et pour la première fois, quand Internet sort, on a des gens dans un village, timides comme tout, qui font des millions. Ça, c'était pas prévu dans l'agenda. Enfin, je parle comme si c'était un complot, mais c'était pas un complot, c'est l'histoire de l'humanité. Mais c'était pas prévu dans la matrice. Et quand Internet vient, on sort de cette... Ça crée cette faille dans la matrice où on sort de là. Et je pense aujourd'hui que on n'a plus le droit de se plaindre quand on a Internet aujourd'hui. Après, c'est très compliqué, même si quelqu'un qui vient en Afrique, il faut déjà qu'il ait ce mindset, qu'il le comprenne aujourd'hui. Mais à partir du moment où tu le comprends, on n'a plus le droit, en fait, de se dire « non, moi, j'y arrive pas », etc. Parce qu'il y a tellement de choses à faire sur Internet aujourd'hui. Moi, je parlais de SAV, je parlais de plein de choses, plein de compétences, les compétences à haut revenu, etc. Qui est possible pour des gens même qui sont en Afrique. Donc, pour moi, personnellement, quand j'analyse tout ça, je me dis on ne peut plus rester dans le cycle du « oui, je ne peux pas parce qu'on est pauvre, je ne peux pas parce qu'ici, parce que ça, etc. » On peut aujourd'hui tout, grâce à Internet, et même la connexion Internet, si je prends le cas des pays africains, devient de plus en plus moins chère, il y a de plus en plus de compétition, donc tout part dans l'amélioration, en fait. Donc vraiment, personnellement, moi, je suis assez optimiste par rapport à ça, et je sais que grâce à Internet, on peut tout faire aujourd'hui.
Complètement. Je reviens justement sur le moment où tu trouves ta voie. Tu testes, donc je l'évoquais tout à l'heure, différents business models comme le marketing de réseau, le trading, l'affiliation, mais sans succès, jusqu'à découvrir le e-commerce en février 2016. Qu'est-ce qui a fait finalement que ce business model spécifique était beaucoup plus approprié pour toi et les résultats que tu as eu derrière ? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
En fait, quand je me lance à partir de 2013-2014, c'est avec un ami que je me lance dans le marketing de réseau. Cet ami aujourd'hui, il est sur Instagram, multimillionnaire, il est au Canada, etc. Et je me lance 3 mois après, j'arrête. Et après, je trouve, on me parle de marketing d'affiliation, 2014-2015, système IO venait de sortir, j'ai fait de l'affiliation sur ça. Et après, je saute de business en business, de business en business. Jusqu'en 2016, je découvre l'e-commerce en 2016, mais je prends un an avant de me lancer. Je me lance en novembre 2017. Je prends un an pendant toute cette année où je découvre l'e-commerce. Je regarde un peu de loin, je teste quelques trucs, je crée des boutiques, je me mets dans des groupes Facebook, etc. et tout. Mais je ne suis pas forcément dans l'action, en fait. Et la différence, en fait, c'est que je fais le bilan, je vois que tous les business que j'ai abandonnés, je connais des gens qui ont réussi dedans. Que ce soit le marketing de réseau, comme je l'ai dit, mon pote donc, qui m'a entraîné dans le marketing de réseau, aujourd'hui, les multimillionnaires, etc. Le marketing d'affiliation, j'ai connu des gens dans les groupes Facebook, dans les formations, etc. Parce que je me formais beaucoup. Tout mon salaire de Monoprix, de Leclerc, de tous les jobs étudiants, je le foutais dans les formations. Je me formais énormément à l'époque. Parce que j'y croyais à ce business model. Et quand je fais le bilan en 2016-2017, je vois que, en fait, c'est moi qui ai abandonné trop vite. C'est moi qui ai lâché trop vite. C'est moi qui étais vraiment dans les... qui sautait de business en business, d'objet brillant en objet brillant. C'est moi qui n'ai pas eu la patience de persévérer aussi longtemps. Même si de 2013, je dirais 2013-2014 jusqu'à 2017, je persévère, je n'abandonne pas. Parce que j'y crois. Mais je ne suis jamais resté sur un business assez longtemps. Le moindre petit truc, la moindre petite claque, c'est terminé. Je passe à un autre business. Le moindre petit truc, j'ai pas un résultat ici, je saute de business. Ce qui a fait que j'ai tout testé. Hein. J'ai tout testé à l'époque, en tout cas. J'ai tout testé. Trading, tout ce qu'il y a. WordPress, site SEO. J'ai fait tous les business possibles. Bon, je n'ai pas fait l'immobilier parce que je n'avais pas l'argent pour les frais bancaires. Mais j'ai fait tout ce qui était... Ce qui gagnait de l'argent en ligne à l'époque. Et je constate en fait que c'est moi qui n'ai pas assez persévéré. Et quand je me lance dans l'e-commerce en 2017, mais vraiment avec toute la violence possible, je dis... Je m'accorde cette dernière chance. Si ça ne marche pas, peut-être que c'est plus fait pour moi. Je ferme ma gueule, j'arrête tout ça. Et au moins, je deviens bon salarié. Et pour moi, c'était ça un peu le défi. Je me dis, écoute, peut-être que c'est pas fait pour moi. Peut-être que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si ça ne marche pas, mais si je me donne à 1000% pour cette fois-ci, vraiment à 1000%, et si ça ne marche pas, au moins, je saurai au fond de moi que vas-y, tu n'as pas vite abandonné. Je saurais au fond de moi que j'ai vraiment persévéré, en fait. Et c'est comme ça que je me lance en 2017 et je ne lâche rien. Et pourtant, j'ai mes premiers résultats en juillet 2019, près de 2 ans après. Mais je n'ai rien lâché.
Voilà. Et justement, donc tu le découvres en 2016, tu te lances en 2017. Et c'est qu'en 2019 que tes actions commencent réellement à porter ses fruits, soit 2 ans après t'être lancé. Qu'est-ce qui fait que tu n'as rien lâché et aussi pourquoi autant de temps sépare action et résultat concret selon toi? Parce que ça, c'est vraiment un bon exemple de il faut persévérer, il ne faut rien lâcher, mais en même temps, il ne faut pas s'obstiner lorsque tu n'as pas les bons signaux.
Exactement. En fait, ça a pris beaucoup de temps pour plusieurs raisons. Enfin, je ne dirais pas plusieurs raisons, mais en tout cas, j'ai découvert la raison un mois avant et ça a explosé. Et je te dirai dans ce podcast la raison. En fait, pour moi, comme je l'ai dit, je me suis dit, ce n'est pas possible que ça marche pour les autres et que ça ne marche pas pour moi. Ce n'est pas possible. Soit je suis con, soit il y a un truc qui ne va pas. Et surtout qu'à l'époque, j'étais dans plein de groupes Facebook à l'époque où je voyais quand même des résultats de personnes en e-commerce. Et après, on peut toujours dire, oui, ils mentent, on peut s'inventer des vies, que les gens mentent, qu'ils ne montrent pas les vrais résultats, etc. On peut tout dire, mais il y avait des résultats. Donc pour moi, je pars du principe que comme on le dit chez nous, ils n'ont pas 2 têtes. Donc, moi aussi, je peux avoir des résultats. Deuxième chose, si je persévère assez et que je teste assez toutes les stratégies que je trouve et que je continue, je peux avoir aussi mes résultats. Et pendant ces 2 ans, c'est pas comme si j'avais pas de résultats. Je faisais 2 ventes par-ci, 2 ventes par-là. Mais j'étais pas rentable. Bon, je voyais quand même que le truc marchait. Je faisais quand même quelques ventes. Quatrième chose, j'étais dans un groupe Facebook et il y a un petit qui était là. Il devait avoir 17 ans, un Américain. C'était un groupe américain. Et il fait un post dans ce groupe. Je le connaissais en plus parce qu'il postait. On était tous des débutants, guillemets. On posait des questions dans le groupe Facebook, etc. Et il fait un post. Et dans son post, il met des screenshots de tous les messages qu'il a envoyés depuis 1 an dans le groupe. Il met ses screenshots, il explique comment il a galéré, comment les gens l'ont aidé dans le groupe. Et il met le screenshot de Shopify, today, et là, son 10 000 dollars, aujourd'hui, en vente. Et à l'époque, je me dis, putain, à l'époque, je devais déjà avoir dans les 27 ans, tu vois. Je me dis, putain, attends, je suis con, qu'est-ce qui ne marche pas? Il n'a même pas le bac, le petit, tu vois. Alors moi, j'ai un bac plus 7, etc. Tu vois, je commence à regarder à tout ça, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait? Et c'est là, je me rappelle que je prends une pause d'environ 1 mois, 2 mois. On était déjà en 2019. Et j'essaie de repenser à tout ça. Et en 2019, je découvre Sam Ovens. Un Américain que tu connais, je suis sûr. Je découvre Sam Ovens et il parle de consulting. Mais bon, il m'avait tellement saoulé avec ses publicités. Sam Ovens here, je le voyais partout, ce mec-là. Et il fait une publicité où il dit qu'il n'est pas en tout, enfin, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça, qui n'est pas auteur, il n'est pas compositeur, il n'est pas ci, mais il est consultant. Il parle de ça dans sa publicité. Je vais sur la publicité et je vois qu'il a une formation qu'il vend, mais j'ai pas les sous pour prendre la formation à 2000 dollars. Je rentre dans les groupes où les gens partagent l'accès à la formation parce qu'on fait un achat groupé dans le groupe et tout. Et je regarde le module Mindset de Sam Ovens. Juste le module Mindset à l'époque. Et il parle de plein de choses, comment faire face au diable, etc. Il y a plein de trucs. Et quand je regarde son module, il y a une partie où il dit, et qui m'a, moi, marqué, c'est qu'il dit que dans son expérience en tant qu'entrepreneur, il y avait des fois où, quand il échouait, il sentait, il y avait une certaine satisfaction, en fait. Genre, un certain soulagement. Tu vois, qu'il avait l'impression que à chaque business ou chaque chose qu'il faisait, il le détruisait lui-même. Et j'ai vraiment eu l'impression, quand il a dit ça, que quelque chose s'est débloqué en moi. Et 1 mois après, j'ai eu les résultats. C'est assez, je ne peux pas l'expliquer, peut-être c'est de la magie. Mais vraiment, c'est comme ça que le déclic est venu, j'ai envie de dire. C'est le côté mindset que j'ai pendant très longtemps sous-estimé. Le mindset parce qu'il y a aussi le rapport à l'argent que tu as. Est-ce que tu veux vraiment gagner de l'argent? Surtout quand on est quelqu'un qui vient d'Afrique où on s'est toujours contenté du peu. Est-ce que gagner des millions, est-ce que tu as le mindset pour ça, en fait? Tu vois? Il y a tous ces petits trucs psychologiques qu'on sous-estime souvent dans le parcours entrepreneurial, qui fait que le mindset aujourd'hui, c'est 80% du boulot. Et le reste, c'est 20% d'exécution. Et pour moi, quand j'ai suivi sa formation, je n'ai même pas regardé toute la formation, vraiment, j'ai juste regardé la semaine numéro 2, le mindset. Et il avait donné plein de choses, comment définir une nouvelle personnalité, etc. Il avait parlé de plein de trucs, plein d'exercices à faire et tout. Et pour moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé. J'ai commencé, j'ai fait un plan d'action de malade, c'est la map, la carte de guerre et tout. J'ai respecté tous les trucs scrupuleusement. Et 1 mois après, quand j'ai fini ce module-là, je me suis dit, on tente le dernier coup, le dernier braquage de la matrice. Je lance 30 produits. C'est une boutique e-commerce. J'attends 3 jours, il y a un produit qui se dégage. Et je dis bingo, c'est lui. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré.
Extrêmement intéressant la façon dont tu l'exprimes et notamment ce concept finalement d'identité. Tu parles de transformer, switch identitaire. J'évoque souvent ce principe-là, notamment lors d'une question du podcast. Mais pourquoi je l'évoque? C'est parce qu'elle est extrêmement importante. Et en effet, lorsque tu as préframé ton esprit à ne pas pouvoir gagner, par exemple, en dessous de 100 000 euros par mois, ça peut paraître un petit peu absurde pour certains ou certaines qui nous écoutent, mais il est vrai que c'est assez difficile de retourner en dessous de ce cap-là, celui-ci que je viens de citer ou d'autres, à partir du moment où on l'a mis en place. Tout comme lorsque l'on arrive à faire ce switch parfait de ne plus être dans l'exécution d'un business, il est difficile de redevenir l'exécutant d'un business par rapport à la délégation notamment ou à la structuration. C'est différents caps et différents paliers et ça c'est capital de l'avoir évoqué, donc merci pour ça. Je veux revenir aussi sur le e-commerce finalement, qui est un domaine que tu maîtrises plutôt bien désormais. Le e-commerce, c'est quand même souvent mal perçu ou entouré de préjugés. Ouais. Selon toi, quels sont les principaux malentendus concernant le e-commerce et comment y réponds-tu pour rétablir une image plus fidèle de ce secteur ?
En fait, ce qu'on a eu dans l'e-commerce en France, parce qu'il faut préciser que c'est vraiment en France qu'on a eu, c'est que en France, il y a eu très rapidement l'association dropshipping ANAC. À raison ou à tort, parce que ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, à partir de 2018, 2019 et 2020, beaucoup d'e-commerçants se sont lancés dans le marketing avec les influenceurs, dans le marketing d'influence, et ils ont bombardé et saoulé les Français, en fait. Et souvent aussi, la plupart étaient aussi à Dubaï, donc il y avait eu cette association, hein, dropshipping, Dubaï, influence, il y avait eu cette association, en sachant que beaucoup d'influenceurs français résidaient aussi à Dubaï, et ils ont vendu de la merde. On a eu ceux aussi qui ne livraient pas les clients. Donc, c'est facile de dire, j'ai fait 2 millions, 3 millions, si derrière, tu n'as jamais livré personne. Parce que quand tu es comme moi, que tu as fait 2 millions en France et que tu as payé tes impôts en France, tu es à 10-15%. Soyons sérieux. C'est ça, en fait, la réalité. Tu es à 10-15% parce que tu as tout payé. Tu vois. Donc, on a eu cette image parce que le marketing d'influence a vraiment terni l'image des e-commerçants en France. La qualité des produits, la plupart des gens, c'est les gens vendent des produits de merde parce qu'on veut faire de l'argent rapidement. D'accord? Ils s'en foutent de la SAV au niveau de leurs clients. Donc, qu'ils aiment pas, on s'en fout. On est là pour se faire de l'argent rapidement. Et dans tous les cas, si le constripe est bloqué, on va acheter un autre constripe, on va passer à autre chose, etc. Donc, on a eu vraiment cet environnement en France du gain de l'argent rapidement avec l'e-commerce qui a fait en sorte que les clients se sont saoulés rapidement et qu'on a eu particulièrement en France énormément de blocages, que ce soit de PayPal, que ce soit de ça, parce que c'est très français, hein, tous ces blocages qu'on rencontre aujourd'hui dans l'e-commerce et ce manque de confiance qu'on a aujourd'hui envers les e-commerçants. Moi, pour ma part, très rapidement, j'ai voulu faire un peu trop bien les choses, même, j'ai envie de dire. Comme je l'ai dit, moi, je suis resté en France pendant presque tout mon séjour où j'étais à fond sur l'e-commerce. Aujourd'hui, j'ai plein d'autres activités, mais j'étais vraiment à fond sur le marché français. J'étais en France, j'ai vendu en France, j'ai payé mes impôts en France. Donc, du coup, moi aussi, il faut dire que le fait aussi que je sois étranger fait que j'avais un peu cette peur de me dire, t'as intérêt à tout bien faire. Tu vois, t'as intérêt à tout bien faire parce que si toi, on te prend, on va te taper dur dessus. Tu vois, donc j'avais un peu ce je vais pas te parler de blocage, ou qui fait que moi personnellement j'essaie vraiment de bien faire les choses. Maintenant, est-ce que le dropshipping c'est une arnaque? Enfin, c'est ça aussi qui revient souvent. Bien évidemment, le dropshipping c'est du e-commerce, c'est une arnaque, c'est pas une arnaque plutôt, parce que pourquoi je le dis, quand on regarde un peu le monde de la bourse, parce que j'ai travaillé en tant que consultant en informatique dans le monde de la bourse, le fait d'acheter un produit qui n'est même pas encore prêt et de le vendre et d'encaisser les sous, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Tu vois, dans le monde de la bourse, par exemple, on le voit très bien dans les matières premières, où on achète toutes les récoltes d'un agriculteur avant même que la récolte ne soit plantée, et qu'on spécule dessus. C'est des choses qui se passent déjà dans plein de domaines, en fait. Donc, dit que dropshipping, c'est une arnaque, c'est dropshipping, c'est e-commerce. La seule différence, c'est que on n'a pas le produit avec nous. Le produit reste encore chez le fournisseur. Donc, ça permet de se lancer rapidement, effectivement. Ça permet de ne pas avoir la gestion de stock, qui est quand même un métier qui est assez difficile à faire. Ça permet de pouvoir scaler aussi son business rapidement. Donc, de manière générale, dropshipping, c'est égal à e-commerce classique. D'accord? Il n'y a aucune différence à part la gestion de stock. Et ce n'est pas une arnaque. Maintenant, ça dépend de ce que chacun en fait. Parce que dans tous les business, il y a des escrocs, que ce soit dans la vente de formation, que ce soit dans le trading, que ce soit dans le copywriting, bref, dans tous les business qu'on a aujourd'hui en ligne, il y a toujours des escrocs, même dans la vraie vie, il y a des escrocs dans les business. Maintenant, effectivement, l'e-commerce a eu cette mauvaise presse, parce qu'on a eu pas mal d'articles de journaux aussi dessus, qui fait qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, c'est totalement une arnaque. Maintenant, c'est à chacun, avec sa propre conscience, de savoir comment il gère son business. Et pour ma part, moi, que ce soit les produits que je vends, que ce soit la manière dont je fais l'e-commerce, parce qu'aujourd'hui, même le dropshipping, je n'en fais plus trop, comme je l'ai dit, je suis totalement sur un autre concept où je suis beaucoup plus dans des partenariats avec des usines en Chine et je suis le représentant officiel, ce qui fait que personne ne vend le produit que je vends. Donc, c'est des trucs que j'ai pu développer parce que au moment où ça a explosé, toutes ces histoires d'escroquerie, de dropshipping, etc., il fallait rapidement changer de cap et je suis sorti un peu de ce modèle pué du dropshipping avec du stock, avec un branding, avec un partenariat avec des usines où on vend des produits de qualité, etc., etc. Donc, pour rétablir un peu l'image, je dirais que c'est vraiment à chacun, à chaque e-commerçant, de définir sa stratégie et d'être honnête en fait envers les gens. Mais l'e-commerce n'est pas une arnaque. C'est comme tout business model. Il y a des escrocs partout. C'est juste que l'e-commerce a une très mauvaise presse en France. Et ça, aujourd'hui, ça permet quand même de nettoyer un peu. Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a tellement de garde-fous, il y a tellement de barrières. Les clients peuvent se plaindre très rapidement. Il y a plein de mesures qui ont été mises en place. Les influenceurs aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de faire la promotion de n'importe quel produit. Les influenceurs doivent dire dans leur post que c'est une prestation commerciale, etc. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place qui fait que ceux qui tiennent encore aujourd'hui, c'est que les meilleurs qui vont tenir. Tous les escrocs, etc., bon, ils sont partis dans d'autres pays, faites du e-commerce dans d'autres pays, bon, voilà. Sinon, pour le cas de la France, en tout cas, c'est, en tout cas, pour les gens qui sont honnêtes, c'est toujours mieux.
Complètement. Maintenant que tu as posé le cadre, rétabli la vérité ou remis l'église au milieu du village, voyons ça comme on veut, on reste quand même dans un domaine où il y a beaucoup de gens qui se lancent peut-être de la mauvaise manière, qui abandonnent rapidement. Tu l'évoquais tout à l'heure et finalement tu as failli faire partie de ce type de personne parce que tu as mis quand même 2 ans avant de réussir à avoir le déclic pour pouvoir aller chercher le type de résultat et heureusement que tu as lancer ce dernier batch de produits pour identifier ce produit winner qui a fait que tu as pu ensuite aller chercher ce type de résultat ou tout du moins mettre le pied à l'étrier de résultats intéressants. Selon toi, quelles sont les plus grandes erreurs ou les plus grosses erreurs commises en e-commerce lorsque quelqu'un se lance et veut avoir du résultat?
Moi, je pense déjà, pour les débutants, beaucoup de débutants sont focalisés sur les choses un peu inutiles pour commencer. C'est-à-dire que quand on est débutant, on veut certainement faire le meilleur site web possible. On veut un peu trop bien faire les choses quand on débute, en fait. Alors que le plus important en e-commerce aujourd'hui, c'est ton produit. Quel est le produit que tu veux vendre? Comment tu vas le marketer? Et est-ce que ce produit répond à des besoins au niveau des clients? Et moi, je vois beaucoup de débutants qui vont passer du temps à te parler du logo, à te parler du nom de la boutique, alors que toute leur énergie doit être comment trouver le meilleur produit à vendre. Tout business se base sur un produit, sur un service. Ce n'est pas le plus beau site web qui va gagner. Aujourd'hui, on le voit bien avec les tunnels de vente, hein. Les tunnels de vente, parfois, on a des tunnels de vente parfois qui sont moches, mais qui convertissent comme des fous, parce que le bon message est sur le tunnel. Et donc, c'est pas la beauté qui compte, c'est pas la beauté du site qui compte. Ça vient après, ça vient, la beauté vient embellir un peu les choses, mais derrière, c'est vraiment le contenu et le besoin. Est-ce que ton produit répond vraiment aux besoins de ta clientèle? Donc, pour moi, aujourd'hui, la plus grosse erreur au niveau des débutants, c'est de se focaliser trop sur des aspects qui ne sont pas essentiels pour commencer. Le logo, le nom de la boutique. Est-ce que la boutique doit passer des heures à chercher le meilleur thème Shopify, etc., etc. et tout, alors qu'ils doivent placer toute leur énergie à trouver le meilleur produit, à tester le maximum de produits pour trouver le produit qui va être gagnant pour eux. Pour moi, c'est l'un des trucs les plus essentiels. La deuxième chose aussi, c'est aujourd'hui, surtout sur le marché français, il est important de prendre en compte le service client. C'est essentiel. Même quand on est débutant, parce que le marché a changé, on ne peut plus faire les choses comme ce qu'on faisait en 2016, 2017, jusqu'à 2019. C'est impossible. Donc, ça veut dire quoi? C'est comprendre les besoins de ses clients. Parfois, même nous, ce qu'on fait, même, je peux te dire, c'est que on appelle les clients au téléphone après. Donc, après la vente, quelques jours après, parce qu'on livre environ en 3 à 5 jours, quand ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a un retard, on les appelle au téléphone, on les rassure. Donc, il y a tout ce process SAV qu'on a mis en place. Sur nos boutiques, on a un téléphone, un mot téléphone qui est disponible où on répond au téléphone, on a un WhatsApp qui est disponible où on répond aussi à tous les messages, qui fait que ça permet d'avoir une très bonne image au niveau des clients. Et ça, c'est essentiel. Parfois, même lorsque un client finit de commander et qu'il a reçu son colis, on peut l'appeler pour parler de son expérience. Et on a déjà eu plein de messages où les clients nous disent vraiment, On s'est senti important, on nous a accordé beaucoup d'importance, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un facteur extrêmement important. Veiller à ce qu'on vende des produits de qualité, veiller à ce que le client soit satisfait et chouchouter son client. Même quand on est débutant. Quand on fait ça, au moins pose les bonnes bases pour avoir une boutique qui va cartonner. Pour moi, c'est vraiment ça. Et beaucoup de débutants vont être vraiment dans le dropshipping rapide. C'est-à-dire, on va vendre tout et n'importe quoi, on va vendre des gadgets, etc. Moi, pour te dire, les produits que moi je vends des chaussettes, des sacs à dos, des chaussures. Je ne vends pas des gadgets. Tu vois. Et pourtant, tout le monde te dira qu'en e-commerce, il ne faut pas vendre des trucs qu'on peut trouver à Carrefour. Il faut vendre des trucs qu'on ne trouve pas en magasin. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Parfois, c'est les choses que les gens connaissent déjà qu'ils vont acheter. Et tous les produits que moi j'ai lancés depuis 2017, etc., et surtout depuis 2019, les produits qui ont en tout cas le plus marché pour moi, c'est dans la niche du textile. C'est les choses que tu peux trouver effectivement en magasin, qu'on vend, qu'on peut trouver partout, qu'on vend. Donc voilà, il y a aussi ce volet où les gens sont trop focalisés sur les produits qu'on appelle effet waouh. C'est-à-dire, on dit waouh. Mais le fait waouh, le waouh ne dure jamais plus de 3 mois. Alors que pour avoir quelque chose qui va durer dans le temps, c'est un produit où les gens continueront à acheter, peu importe la saison, peu importe les années, et pas juste parce que c'était le buzz du moment, comme les hand spinners en 2018-2019, qui aujourd'hui ont disparu parce que c'était l'effet waouh du moment.
Complètement. Et tu réponds aussi indirectement à une question. Alors, il n'était pas prévu que je te la pose, mais c'est une question qui est souvent posée. Est-ce la fin du dropshipping? Le e-commerce évolue, ou je ne sais pas trop comment les marketeurs qui vendent des formations e-commerce dropshipping le mettent en avant, mais on voit souvent cette fameuse vidéo qui sort une ou deux fois dans l'année pour les grands
Le dropshipping est
influenceurs,
mort.
par exemple. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant dans ça, alors. Pour moi, le dropshipping existe depuis très longtemps, il existera encore
Oui.
très longtemps. Mais par ta réponse, tu évoques le fait clair que finalement, ça ne... y a de très faibles probabilités que ça se termine un jour. Et il y aura toujours, pour celles et ceux qui sauront tirer profit de ce type d'opportunité, de la place, en évoquant le fait que tu vends des produits qu'on peut trouver en grande surface, en magasin, n'importe où. Mais de par peut-être ton positionnement, ton marketing, ta façon de le vendre, le discours, différentes choses que je n'ai pas évoquées ou dont je n'ai pas connaissance que tu mets en place, tu vas réussir à performer là où la plupart des gens n'y arriveraient pas, de par cette expertise que tu as su développer. Et ça, c'est capital parce que ça ouvre une fenêtre à toutes celles et ceux qui ont peut-être déjà essayé de se dire, OK, en fait, j'étais peut-être juste pas sur le bon créneau ou je suis peut-être à un produit d'enfin réussir pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Et justement, un des éléments différenciants que toi, tu as mis en place, c'est le fait de travailler en direct avec la Chine. Avant de te poser différentes questions sur l'import, export que tu mets entre la Chine et l'Afrique en place, etc., est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta façon de travailler avec la Chine, sur ta façon de faire de l'import-export, que ce soit dans les matières premières ou avec des partenaires exclusifs avec des usines en Chine, comment ça fonctionne? Ça peut être quelque chose d'assez encore flou et nébuleux pour peut-être certains ou certaines qui nous écoutent.
En effet, c'est vraiment basé sur mon expérience en fait. Ça a commencé en 2019. Je vendais des sacs à dos en 2019 sur le marché américain. Et c'est un sac d'une marque chinoise parce que sur AliExpress, il y a des marques sur AliExpress. Vous avez même Huawei, par exemple, Xiaomi, toutes les marques qu'on trouve de téléphonie qui ont de vraies boutiques sur AliExpress, qui sont des boutiques qu'on appelle premium sur AliExpress. Donc, moi, j'avais pris un produit comme ça sur AliExpress. C'était des sacs à dos que je vendais. Et à cette époque, c'était en 2019, de novembre jusqu'au confinement en mars-avril 2020, et ça marchait très bien. À l'époque, on avait atteint les bas des 100 000 dollars de chiffre d'affaires. J'achetais le sac à 27 dollars, je le vendais à 89 dollars. Le coût publicitaire me coûtait dans les 30 dollars environ, donc j'avais une petite marge. Je ne payais pas de TVA parce que c'était le marché américain, donc ça va. Je m'en sortais un peu avec du 20 euros, 20 dollars, 25 dollars en fonction des jours, par unité vendue. Donc ça marchait assez bien ce sac. Et le fournisseur m'envoie un message. Et il me dit, vraiment, parce qu'à l'époque, je lui donnais dans les 30 000 dollars, 35 000 dollars et tout, tous les mois. Il me dit, écoute, si ça continue comme ça, je ferme ma boutique AliExpress. Et tu travailles, quoi, tu prends le truc. Tu prends, tu es mon représentant officiel. Je dis, ah bon, c'est possible? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, parce que dans tous les cas, tu me rapportes plus d'argent que ce que moi-même je fais sur AliExpress. Donc c'est là où j'ai eu le déclic en me disant, ah ouais, je peux faire ça en fait. Et on a continué à travailler comme ça, je ne suis plus revenu dessus. Et après, le coronavirus, le confinement a fait que le prix de la livraison a grimpé. Je suis passé de 27 dollars à 47 dollars au prix d'achat. J'ai laissé tomber, et mais c'était resté dans ma tête. Donc après, quand j'ai commencé à vouloir relancer d'autres produits en e-commerce, j'ai commencé à viser effectivement ces boutiques premium qu'on trouve sur AliExpress, qui mettent déjà à peu près tout à votre disposition, que ce soit de belles photos, de belles images. Il y a tout qui est déjà fait en fait sur ces boutiques-là. Et du coup, j'ai commencé à tester ces types de produits. Et souvent, c'est des types de produits qu'on trouvait beaucoup dans le textile, comme je le disais, un sac à dos, chaussures, etc., qui étaient extrêmement bien brandés, des belles photos. Tout était déjà fait en fait. Donc c'est comme ça que moi, j'ai commencé à démarcher un peu, à tester ces produits. Et quand je commençais à ça marchait, je commençais à scaler. J'écrivais au fournisseur pour savoir si c'était l'usine elle-même qui était sur AliExpress, si c'était un revendeur officiel qui était sur AliExpress, et voir avec elle, est-ce qu'il y a moyen que je sois le seul à vendre ce produit-là et qu'on puisse modifier même les prix sur AliExpress. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à négocier avec ces usines-là. Et aujourd'hui, je vends une marque de sac à dos qu'on peut même trouver sur AliExpress, sur lequel j'ai un contrat d'exclusivité, je suis le seul à le vendre. Et même si tu vas sur AliExpress et que tu es en France, tu ne peux pas l'acheter. Et il coûte plus cher sur AliExpress que sur ma boutique. Donc, sur ma boutique, le produit, il est à 70 euros, tu vas sur AliExpress à 90 euros. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai mis en place ce partenariat. Et après, bon, comme je connaissais déjà la Chine, que je parle aussi la langue, parce que j'ai appris la langue chinoise à partir de 2015, etc., je suis allé en Chine rencontrer l'usine, on a signé tous les contrats, on a bien fait les choses et tout, ce qui fait que je deviens leur représentant officiel. Et aujourd'hui, on est même en train de penser à ouvrir une boutique physique en Île-de-France, etc., par rapport à cette marque-là. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à tester ces stratégies où l'idée, c'est vraiment d'aller avec des marques qui existent déjà, qui ont déjà un certain positionnement, qui est déjà clair, qui ont déjà tout le marketing. Dis-toi que l'usine m'a envoyé 600 gigas de photos et de vidéos, et de shooting photo, de shooting vidéo, tout, de tous les, tout le,
Tout le stock.
tous les assets marketing. Et c'est comme ça, je me suis dit, il y a ce positionnement qu'on peut avoir, surtout que c'est des produits qui sont extrêmement bien faits, de très très bonne qualité, qu'on livre rapidement. Même en dropshipping, tu as une livraison de moins de 10 jours. Aujourd'hui, je ne suis plus en dropshipping, je commence à avoir du stock. On a un warehouse en Espagne qui livre la France en quelques jours. Donc, on est en train de quitter le modèle dropshipping, mais on le mélange un peu pour les produits accessoires non nécessaires. On passe toujours par la Chine pour envoyer, mais pour le produit principal, c'est livré depuis l'Espagne. Donc, c'est des trucs qu'on a mis en place actuellement. Donc, c'est comme ça que je développe ce volet-là. Et je me dis, ça me permet même de m'éloigner un peu. Et surtout, je suis en exclusivité. C'est-à-dire que si une boutique ou un autre dropshipper essaie de copier ce produit ou cette marque-là de façon exclusive, elle sera bannie de Shopify. On a eu plein de concurrents comme ça qui ont essayé. On envoie les contrats à Shopify, ils sont sautés dans l'heure d'après. Donc, c'est un peu, moi, la stratégie que j'ai mise en place aujourd'hui et que j'ai commencé aussi à enseigner aux gens pour leur montrer un peu. Certes, c'est plus long, c'est pas du make money quick, sincèrement, je suis transparent dessus, c'est pas en 3 semaines, t'as fait 100 000 euros, le mois d'après t'es à Dubaï, non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment tester, changer de positionnement, prendre beaucoup plus son temps, discuter beaucoup plus pour créer des liens avec l'usine aussi, etc. Et après se positionner. Donc c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps, mais je me sens aujourd'hui beaucoup plus confortable avec cette méthode. Parce que quelque part, je suis dans une vision, j'essaie de développer quelque chose, j'essaie d'avoir quelque chose. C'est pas la méthode la plus rapide, je dirais, en toute transparence, mais au moins c'est la méthode où tu peux avoir quelque chose de pérenne sur la durée et tu peux aider une marque chinoise à s'implanter, entre guillemets, en France avec un contrat où tu es en exclusivité dessus et que tu te développes petit à petit. Et les Chinois sont vraiment dans cette mentalité aussi, vraiment ils voient le long terme en fait, c'est-à-dire on avance tranquillement, on avance doucement et on essaie de développer quelque chose de grand. Donc c'est un peu la stratégie que moi j'ai mis en place à ce niveau-là. Et en e-commerce aujourd'hui, celle que j'enseigne un peu pour ceux qui veulent vraiment aller à ce niveau. Sinon, le dropshipping classique, comme je peux le dire, marche toujours. Mais après, il faut toujours être sur les bons produits. Parce que moi, j'ai une certaine éthique dans le travail qui fait que ça me dérange même de vendre des choses où je sais que ça marche pas. Tu vois, c'est un peu malhonnête quelque part. Voilà.
Complètement. Travailler avec la Chine, comme tu l'évoques, ça implique également de chercher un bon réseau de fournisseurs et des partenaires. Tu parlais de créer des liens. Comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour identifier et choisir les bons fournisseurs pour tes boutiques? Et quelle stratégie tu as utilisée pour construire des relations de confiance avec, bon, Tu évoques le fait que tu as appris la langue chinoise en 2015, donc ouais. Tu as un avantage concurrentiel qui est quand même important. J'imagine que c'est plus simple pour la communication. Mais outre ce point-là, premier point déjà, est-ce que tu penses que si quelqu'un ne parle pas le chinois, il peut établir des liens comme tu l'as établi? Premier point. Et deuxième point, comment est-ce que tu t'y prendrais?
Oui, clairement, on peut établir des liens, même si on ne parle pas la langue. Il faut même dire que quand moi je commence à communiquer avec les Chinois, je ne leur dis pas que je parle la langue. Parce que j'essaie quand même de faire en sorte que la relation soit le plus naturelle possible. Parce que lorsqu'on parle la langue de quelqu'un, la relation change. Ça devient beaucoup plus fraternel en même temps. Mais au début, il faut quand même rester assez professionnel pour essayer de voir comment chacun gère cette nouvelle relation-là. Donc, pour moi, en fait, c'est très simple. C'est dans la communication avec les usines. Par exemple, je te donne un exemple. Tu trouves un produit en e-commerce que tu commences à vendre, que tu commences à faire du chiffre avec et tu veux commencer à discuter avec la marque. La première chose que je fais, c'est de les sortir d'AliExpress. De dire, écoute, ajoute-moi sur WhatsApp, ajoute-moi sur WeChat et on commence à discuter. La personne aussi voit quand même que ça marche et c'est dans cette communication-là sur hors AliExpress qu'on commence à créer des liens. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on on comprend un peu comment fonctionnent les Chinois. Même dans les faits du business avec les Chinois, ils privilégient beaucoup, beaucoup ce côté, je dirais, un peu fraternel, un peu simple, très humble. Ils aiment beaucoup ce volet qui n'est pas trop, trop professionnel, trop, trop cadré. Tu vois? Donc, c'est aussi culturel à leur niveau. Donc, par exemple, mes fournisseurs m'envoient des cadeaux pour Noël ou bien pour des cadeaux d'anniversaire, des trucs comme ça, des petits gestes comme ça. Et c'est dans ce type de relation qu'on essaie vraiment d'établir quelque chose de long terme et que les deux parties essaient de trouver leur avantage. Donc, pour donner un exemple concret par rapport à la marque de ça que moi j'ai, c'est quand j'ai commencé à vendre, que j'ai testé le produit, que ça a commencé à marcher, je les ai écrits sur WeChat, parce que j'avais même vu leur numéro directement sur la page AliExpress. On a commencé à communiquer dessus. Et je leur ai expliqué mon projet, ils ont dit qu'ils vont réfléchir, ok, que ça allait être intéressant, en plus on vend bien, etc. Et c'est dans cette communication-là qu'on a commencé à établir les choses. La seule différence, c'est que j'allais en Chine dans la période et je leur ai dit, écoutez les gars, je viens vous rendre visite. Et ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important et ça, je le conseille à tout le monde. Si vous faites de l'e-commerce et que vous commencez, vous avez une certaine relation avec votre fournisseur, vous générez de l'argent, faites tout possible pour les rencontrer dans la vraie vie. Ça change littéralement la relation. Le fait de venir en Chine, de les rencontrer, déjà, ils vont bien vous accueillir, etc., ça change totalement la relation. Il y a vraiment, comme je le disais, ce côté très fraternel qui vient. Et moi, le plus que j'ai, la cerise sur le gâteau, c'est le fait de pouvoir parler la langue. Parce que j'ai fait une partie de mes études, je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai fini mes études d'ingénieur en France, je suis allé en Chine continuer des études de langue chinoise parce que je m'étais passionné de la langue en temps. Et voilà, donc j'ai eu un diplôme de langue, etc., d'apprentissage du chinois, tout ça. Qui fait qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Et c'est justement via ça que j'ai commencé à développer l'activité d'import-export avec la Chine, etc.
Et lorsque tu commences à faire du business à l'international de cette façon-là, la différence de culture, les différences aussi réglementaires, pardon, ça peut être un obstacle quand même considérable, notamment avec la Chine. Est-ce que tu as rencontré des barrières? Et si oui, comment est-ce que tu les as surmontées?
Oui, en fait, la première chose, lorsqu'on parle d'import-export, là, on est dans la vraie vie. L'import-export et tout ce qui va être dans le négoce des matières premières, etc., c'est beaucoup plus des business physiques que des business en ligne. Même si nous, on a essayé de le mettre beaucoup, de le digitaliser un peu plus. Tu vois. Parce que effectivement, quand on parle de la relation de la Chine et de l'Afrique, aujourd'hui en termes de business, les Chinois veulent aller en Afrique. Ils comprennent l'opportunité d'aller en Afrique et mais la seule chose qu'ils ne comprennent pas, c'est comment comprendre un peu plus la culture, comment faire du business avec l'Afrique, etc. Et c'est la même chose aussi pour les Africains. Et je pense que la chance que moi j'ai, c'est sur ça que j'ai capitalisé, c'est de comprendre les deux, parce que j'ai fait la Chine et je suis aussi Africain. Donc le fait d'apprendre le chinois, que je l'ai appris vraiment de façon académique et de comprendre la culture, parce que j'ai eu un diplôme en philosophie, langue et culture chinoise, c'est que je comprends un peu leur mentalité, je sais comment ils réfléchissent. Et ça, effectivement, dans la relation, lorsqu'on parle d'import-export, il faut envoyer des conteneurs. Là, c'est plus des produits à 50 euros. On parle des contrats à 2, 3, 4, 5 millions d'euros et que je me positionne sur ces contrats en tant qu'intermédiaire entre l'entreprise en Afrique qui veut des produits importés de la Chine et entre les Chinois qui sont exportateurs ou dans le sens inverse où c'est des matières premières qui vont quitter l'Afrique vers la Chine. Et on est en partenariat avec les deux parties comme intermédiaires. C'est extrêmement important parce qu'on comprend les deux parties. on comprend un peu la culture, on sait comment communiquer sur les deux parties. Et c'est ça qui, pour moi, a été l'un des, comment je vais dire, qui a été l'avantage d'avoir appris la langue sur ce business-là, de façon spécifique, qui fait que je peux comprendre un peu comment interagir avec les deux parties, la partie africaine et la partie chinoise. Donc, les plus gros obstacles, souvent, c'est la communication. Parce qu'on est quand même sur des pays africains francophones qui parlent français, qui ont des besoins spécifiques. On est avec une partie chinoise et souvent les besoins des Africains sont totalement différents par rapport à la conception que les Chinois ont de ces besoins-là. C'est pas si tu comprends. Pour l'expliquer, en fait, c'est que une entreprise en Afrique veut telle machine, mais vu les réalités du continent, il faut apporter des modifications à cette machine-là. Parce
Complètement.
que c'est une autre réalité. Et du coup, souvent les usines vont faire des choses standardisées. Et nous, tout notre boulot, justement, c'est de pouvoir expliquer à la partie chinoise comment adapter ce qu'ils ont déjà fait pour correspondre à la réalité que nous avons sur le terrain en Afrique.
Complètement.
Et c'est dans cette communication souvent que beaucoup d'entreprises font des erreurs, ils n'arrivent pas à bien expliquer le besoin. Le Chinois va envoyer la machine, par exemple, mais ça ne sera pas adapté. Et du coup, ça crée beaucoup de problèmes parce qu'ils vont commencer à parler d'escroquerie, les produits chinois ne sont pas de bonne qualité, parce que si, parce que ça, tu vois. Parce qu'il y a eu un vrai problème de communication. Et la culture asiatique aussi, si tu connais un peu cette culture, c'est une culture qui n'aime pas trop dire non. Ils vont dire oui à tout, même si parfois ils ne peuvent pas. Tu vois? Parce qu'il y a ce concept un peu de ne pas perdre la face devant le client. De ne pas comment je vais dire, de ne pas se rabaisser ou de ne pas trop paraître qu'on ne peut pas faire ce boulot. Donc ils vont dire oui. Mais ils ne pourront pas bien le faire. Donc il y a tous ces volets qui sont beaucoup plus culturels dans le business que nous, on essaie de cadrer par rapport à nos clients qui nous confient des projets et par rapport aussi aux usines chinoises pour que les deux parties puissent s'entendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à régler un peu les problèmes qui arrivent sur le terrain lorsqu'on parle d'import-export entre l'Afrique et la Chine, par exemple.
Comment tu es venu à faire de l'import-export, notamment entre deux États? Parce que lorsque tu l'expliques, là, ici, dans le podcast, ça paraît quelque chose d'anodin, naturel. Mais pour la plupart des gens qui nous écoutent, il y a plein d'enjeux, justement, dont on n'a pas forcément connaissance. On imagine que ça doit être quelque chose qui est lié, limite, à de la politique, à des réseaux spéciaux, à quelque chose de nébuleux dont on n'a pas forcément accès. Or, il suffit peut-être d'avoir juste le bon contact au bon moment et la bonne opportunité, mettre en lien des personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement tu en es venu à faire de l'import-export en deux États?
Mais tu sais, c'est quelque chose. La plupart des clients qu'on a eus, c'était sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'ont contacté sur Instagram. On a eu des ministres qui m'ont contacté de pays africains, bon, autant je ne te dirai pas le nom, qui nous ont contacté, qui nous disent, ah, on voit ce que tu fais et tout, on a envie de commander des machines. On a envie de commander telle chose. On a envie de faire tel truc. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? En fait, c'est comme ça, en fait. C'est souvent des gens qui sont dans des entreprises étatiques en Afrique qui nous contactent via ce qu'on fait. Parce que tous les 6 mois, j'amène des groupes d'entrepreneurs africains en Chine pour des visites business. Donc, on les aide sur le terrain pendant 2, 3 semaines dans le partenariat et tout ça, c'est filmé et mis sur YouTube. Donc, ils voient un peu. Donc, c'est comme ça que les gens commencent à nous contacter. Effectivement. Et souvent, tu te rends compte que c'est des gens qui sont dans la politique, qui sont ministres, qui sont maires de certaines villes en Afrique et qui nous contactent pour qu'on puisse les aider dans des projets souvent gouvernementaux ou des contrats du gouvernement, des appels d'offres du gouvernement sur des choses. Et c'est en fait, c'est comme ça qu'on commence à travailler avec la partie chinoise. Maintenant, la spécialité, en fait, la spécificité aussi de ça, c'est que souvent, les Chinois, dans la manière dont ils structurent leurs relations avec l'Afrique, c'est souvent des relations d'État à État. C'est beaucoup plus ce type de relations qu'ils mettent en place. C'est un entrepreneur privé, un privé peut effectivement faire du business, mais souvent quand c'est les États qui, c'est des business ou c'est l'État qui passe des commandes, souvent c'est aussi des entreprises d'État qui aiment répondre à ces commandes-là. Et du coup, nous, on a des partenaires, effectivement, qui sont des entreprises d'État chinois. Donc, je peux donner le nom. On a Sinotruk, par exemple, qui est la plus grande entreprise qui fait des camions au monde, qui est une entreprise d'État, sur lesquelles on a déjà accompagné des entrepreneurs à obtenir des camions. Donc, en fait, c'est la relation Chine-Afrique, souvent, est assez spécifique et assez particulière, qui fait qu'en fonction de qui on a devant, l'entreprise qui intervient aussi peut être une entreprise d'État, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu la particularité avec les relations africaines et les relations Chine-Afrique qu'on a. Et c'est sur ce volet-là que nous, on essaie d'accompagner les clients. Maintenant, effectivement, pour les clients qui sont en Afrique, souvent, c'est des gens qui sont aussi dans des partis politiques, qui sont un peu liés à la politique, à ce monde-là. Pour nous, on intervient toujours en tant qu'intermédiaire. La politique ne nous intéresse pas. On traite chaque client par rapport au projet qu'il nous amène et par rapport au partenariat qu'il a envie de faire. Tu vois? Donc, on ne rentre pas trop dans cet environnement hyper politisé, parce que c'est quelque chose sur lequel moi, je ne suis pas très confortable. Parce que la politique, voilà, j'aime un peu l'indépendance du business en ligne et tout. Donc, on essaie quand même de rester assez professionnel, de ne pas rentrer trop dans les détails politiques et de faire le business comme si c'était deux entreprises privées qui voulaient faire un partenariat sur des matières premières ou sur des machines agricoles, etc.
Très clair également. Merci pour toute la valeur que tu délivres jusqu'ici et la transparence que tu as dans le cadre de tes réponses, c'est vraiment apprécié. J'ai envie de rebondir sur l'impact que tu veux avoir, que tu véhicules. J'ai deux questions pour toi à l'égard de l'impact. Le premier, ça concerne finalement ton mantra. Je cite, tu dis souvent, si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrit une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce mantra, pourquoi il est si important pour toi et pourquoi tu le répètes régulièrement?
C'est l'idée aussi par rapport à ça, c'est que aujourd'hui on est à une époque, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment une époque très spécifique dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je suis persuadé que aujourd'hui, dans le monde actuel, la formation est extrêmement importante. Parce que par rapport à ma position et par rapport à ce que je fais sur Internet, beaucoup de gens me contactent. Alain, montre-moi un peu ce que tu fais. Et beaucoup de gens, ma communauté à 95% est africaine sur mes chaînes YouTube, sur mes réseaux sociaux. À 95% d'Afrique et de la diaspora africaine dans le monde entier, mais c'est des Africains qui me contactent à 95%. Donc je vois un peu leurs besoins, je comprends un peu leur réalité aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la meilleure façon de les aider, c'est de leur apprendre quelque chose, c'est de leur apprendre un business. Et moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire, c'est grâce à Internet que j'ai pu connaître des choses. Et même aujourd'hui, quand je suis dans le monde physique, comme je l'ai dit, nos clients, même dans l'import-export, viennent parce que ils voient nos vidéos passer sur Internet, sur Instagram et sur YouTube. Et parfois, je peux même pas te le dire, on a des gens qui nous contactent, des footballeurs qui nous contactent, mais vraiment, qui nous contactent, des artistes très, très populaires en Afrique qui nous contactent, etc. Et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'on doit se former, et qu'on doit former en tout cas pour ma communauté, sur un métier, et c'est le métier du web aujourd'hui, qui leur permettra toute leur vie, peu importe leur position géographique, peu importe leurs conditions actuelles, de pouvoir s'en sortir, de gagner de l'argent en ligne. Sincèrement, aujourd'hui, c'est possible. Et la deuxième chose que j'aime souvent dire, c'est d'échec en échec jusqu'à la réussite. Parce que pour moi, quand on voit mon parcours et on voit le nombre d'échecs que j'ai eu sur ce parcours-là, ça reflète vraiment, cette phrase reflète vraiment ma réalité. Parce que je sais, j'étais convaincu que j'allais réussir, mais comment j'allais le faire? Comment j'allais réussir, je ne sais pas. Mais je sais aussi qu'il y a des échecs sur le chemin. Donc voilà, c'est tout ce sentiment que j'essaie d'articuler de façon cohérente et que dans mes vidéos, je le présente à la communauté, pour qu'elle puisse s'inspirer et qu'elle puisse aussi se former. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait un bac plus 7. Je suis ingénieur de formation en sécurité informatique, etc. Ça m'a servi absolument à rien. Et je me dis, est-ce que j'ai pas perdu 7 ans de ma vie à l'université? Après, ça m'a servi à des choses, bien évidemment. J'ai eu à travailler en tant que salarié pendant des années. Mais je suis persuadé aujourd'hui qu'un jeune qui se lance sur Internet et qui apprend les choses, qui après la bonne formation, peu importe le domaine dans lequel il veut se lancer, il y a tellement de choses en ligne, tellement d'activités à haut revenu en ligne. Aujourd'hui, on parle de closing, de copywriting, de plein de trucs aujourd'hui, email marketeur, etc., qui fait que si il arrive, on lui apprend à pêcher ce poisson, c'est terminé. Il pourra faire tout ce qu'il veut, peu importe là où il habite.
Complètement. Tu parles de ta communauté notamment. Tu as un impact qui est conséquent sur ta communauté, sur ton marché, mais aussi et surtout en Afrique. Comment tu vois ton influence sur la croissance et l'évolution du e-commerce sur ce continent? Tu en parlais tout à l'heure. Et quel rôle souhaites-tu jouer dans le développement de ce secteur?
Ah, l'e-commerce en Afrique se développe énormément. Et effectivement, ma communauté à 95% est 50% en Afrique, dans ces 95%, j'ai 50% qui sont en Afrique et 50% qui représentent la diaspora africaine, dont France, Belgique, Canada, États-Unis, etc. Et aujourd'hui, si on reste sur le marché africain, l'e-commerce se développe énormément. C'est le prochain marché qui va exploser, littéralement. Mais les règles du jeu sont différentes sur ce marché. Les habitudes de consommation des Africains sont totalement différentes. Et aujourd'hui, nous, même avec mon équipe, on travaille déjà dans ce sens, où on est déjà en train de faire des tests dans ce sens, en e-commerce, pour vendre sur les marchés locaux en e-commerce, avec quelques résultats qui sont très intéressants. Et je pense que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on va développer pas mal de sujets dessus sur ma chaîne YouTube, justement, pour former les gens dans ce sens-là. Parce que pour moi, c'est vraiment le futur. Beaucoup de gens le disent, hein, que d'ici quelques années, les populations africaines vont littéralement doubler, voire tripler dans quelques années. Donc, il y aura pas mal, comment je vais dire, le pouvoir d'achat aussi va évoluer. L'Afrique se développe lentement, mais sûrement. Je suis très optimiste par rapport à ça. Donc, je sais que l'e-commerce en Afrique, dans les 5 prochaines années, il y aura un boom comme ce qu'on a connu en France, comme ce que les Américains ont connu encore quelques années, que les Asiatiques sont en train de connaître aujourd'hui. Et le prochain sur la liste, ça va être l'Afrique. Et vraiment, nous, on se positionne déjà sur ce volet-là, parce qu'il y a pas mal de choses à faire en Afrique, en e-commerce.
Très clair. Merci Alain pour toutes tes réponses et toute la valeur que tu as pu délivrer dans le cadre de cet épisode. D'ailleurs, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir encore une fois en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de streaming préférée, un avis Apple Podcast et partagez cet épisode. On fera également un article LinkedIn lié à cet épisode et on mettra tes liens Alain directement en description de celui-ci.
Merci.
J'ai envie de te poser la dernière question que je pose à chacun de nos invités. Quel est le déclic qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, vraiment le truc que peut-être tu n'as jamais partagé nulle part, que tu n'as pas partagé encore dans cet épisode. Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, une citation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Oh. Bon, je pense que je l'ai déjà partagé. Pour moi aujourd'hui, le déclic, je l'ai déjà partagé dans le podcast parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a fait perdre énormément de temps. Et quand je l'ai compris, vraiment, c'est ça qui a accéléré mes résultats. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment le volet mindset, les amis. Je sais que c'est un thème un peu bateau que tout le monde aime utiliser, que beaucoup de gens n'y croient même pas. On se dit, est-ce que c'est une réalité, etc. Et pour moi, je pense que vous lancer dans des activités en ligne, dans le monde du business en ligne, la réussite à 1000% va se baser sur votre état d'esprit. Ça m'a pris 5 ans pour m'en rendre compte. Pendant 5 ans, j'ai lutté, je vous assure. J'ai mis énormément d'argent dans le business en ligne. Tous les gars dont je vous ai cité, Olivier, Roland, Cédric, j'ai pris toutes les formations possibles à l'époque. Vraiment toutes les formations. Même tes formations, Alec. Si tu fouilles, tu me trouveras quelque part dans ces anciennes formations. J'ai tout pris. Et il n'y a pas eu de résultat. Et c'est quand j'ai compris ce volet état d'esprit que tout a changé. Le fait de définir une nouvelle identité capable de réussir. Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait allusion au fait de pouvoir se connaître soi-même, parce que la plupart des gens ne se connaissent pas. On voit tout le monde gagner des millions, on se dit oui, c'est cool, je peux aussi le faire aussi. Je peux certainement aussi gagner de l'argent. Mais on ne voit pas, on ne prend pas le temps d'analyser toute sa personnalité, ses traumas, son enfance, tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien, nos réactions, etc. Toutes ces parties inconscientes ou subconscientes qui finalement dictent ce qui on est. Et pour moi, c'est le point le plus important pour tous ceux qui souhaitent se lancer, en tout cas, ou ceux qui se retrouvent bloqués dans des plafonds de verre qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Votre réponse, selon moi, à avoir votre état d'esprit et comment vous définissez une nouvelle personnalité capable de réussir. Et ça a changé ma vie personnellement. C'est comme de la magie quand je l'ai compris. Parce que je me suis dit, putain, si j'avais compris ça en 2014, si j'avais compris ça en 2015. Je l'ai compris en 2019, après avoir mis des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à me former, et pourtant ça ne marchait pas. Et c'est quand je comprends ça, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que quand je lance une activité, aujourd'hui on fait plein d'activités, on fait plus seulement e-commerce, on fait de l'e-commerce, on fait de l'import-export, on fait des matières premières. J'ai une entreprise en Côte d'Ivoire où on a des développeurs, on développe des applications pour les entreprises françaises, etc., etc. On a plein d'activités et tout ça, c'est parce que l'état d'esprit a changé. Pour moi, c'est ce que je peux vous dire, les auditeurs, vraiment. Focalisez-vous énormément, mettez 80% de votre énergie à vous connaître, à définir votre personnalité, à savoir ce que vous voulez vraiment faire, quelle est votre mission sur cette courte durée qu'on nous a prêtée dans ce monde. Et si vous comprenez ça, les 20% seront juste la partie business et vous allez scaler tout ce que vous voulez. Je pense que c'est ce que je peux dire. Merci d'avoir écouté, je dis, ma petite histoire. J'espère que ça va inspirer certaines personnes qui vont voir dans mon parcours un peu des éléments qui pourront les aider à tout exploser.
Merci Alain.
Merci beaucoup, Alec, pour l'invitation.